si vous voulez avoir un résumé rapide. Mais c'est la même chose que pense Liz Truss.
Pardon, mais pour revenir à Keynes, oui, Keynes, c'était pas ça son idée. Non, c'est pas pourquoi non. Est-ce que Keynes a fait qu'à un moment, Keynes a parlé
d'économie
de systémique, parce qu'il était inspiré par le progressisme réel et sincère.
C'était complètement son idée. Il y a un siècle, le débat Keynes-Truss, c'est le débat entre les rigidités structurelles du marché du travail et la politique macroéconomique, c'est-à-dire le déficit de la demande comme cause du chômage. Donc ce que dit Keynes, en fait, au néoclassique, c'est vous vous trompez en pensant que la crise des années 30 se passe que sur le marché du travail. Elle ne se passe pas que sur le marché du travail, elle se passe aussi sur le marché du capital, sur le marché du crédit. Et c'est parce qu'il y a des politiques monétaires qui sont trop restrictives, des taux d'intérêt trop élevés, que vous avez un déversement de la crise du marché de la monnaie vers le marché du travail. Donc Keynes invente à ce moment-là l'analyse macroéconomique, c'est-à-dire l'analyse qui met en rapport les grands marchés, le marché des biens et des services, le marché de la monnaie et le marché du travail. Keynes dit, si vous voulez comprendre l'économie, il faut avoir prendre en quelque sorte, faire un zoom arrière et prendre ces trois marchés et leurs interactions. Ce qui est terrible, c'est que cette intuition macroéconomique est la faillite fondamentale du keynésianisme. C'est-à-dire qu'en fait, Keynes fait ce pas-là, mais il reproche à Ricardo, dans la fameuse...
C'est un néoclassique, il faut le dire.
Voilà, qui est un classique, mais David Ricardo, il dit « à long terme, nous serons tous morts ». C'est la fameuse ouverture de... Un livre de Keynes qui est à long terme de son poussement. Et ce que veut dire Keynes, c'est le raisonnement classique et néoclassique qui est qu'à long terme, vous aurez toujours un marché qui sera à l'équilibre, n'est pas vrai à court terme, parce qu'à court terme, vous avez des déséquilibres qui peuvent être mortels pour les sociétés. Typiquement, l'effet du chômage sur la démocratie. Ce que comprend Roosevelt. Quand Roosevelt prend le pouvoir, il dit le chômage est notre plus grande extravagance morale. Il y a 30% de chômage aux États-Unis et la démocratie commence à être menacée par le taux de chômage. Donc Keynes dit attention, les déséquilibres de court terme, en fait, vont provoquer des dégâts à long terme. Donc l'idée sur laquelle, à long terme, les modèles néoclassiques et classiques sont à l'équilibre, c'est une illusion complète. Ce qui est terrible avec ça, c'est que Keynes, du coup, est court-termiste et en fait, il arrête son raisonnement macroéconomique avant la biosphère. Or, évidemment, il faut monter encore d'un cran pour avoir non plus la vision macroéconomique de tous les marchés intégrés, mais la vision de l'économie écologique, de l'économie encastrée dans la biosphère. Et comprendre en fait que l'économie, il faut monter encore en généralité pour comprendre vraiment l'économie, qui est qu'il n'y a pas d'économie sans flux de matière, sans déchets, sans énergie, sans biodiversité, sans écosystème. Et donc la faillite...
Est-ce que ça, c'était pas totalement inconcevable aux années 30? Parce que là, on est tous d'accord pour le dire, mais... Est-ce que c'est possible dans les années 30 qu'un individu normalement constitué et futile, très intelligent comme John Maynard Keynes soit capable de dire ok, il y a un truc qui s'appelle au-delà encore de la macroéconomie, qui s'appelle la biosphère.
Et là, si vous prenez John Stuart Mill, qui est donc au milieu du 19e siècle, d'accord ? Donc au milieu du 19e siècle, au pic de la révolution industrielle, vous avez un chapitre de John Stuart Mill sur l'état stationnaire. Un chapitre extraordinaire. Lisez-le. C'est un chapitre fabuleux de John Stuart Mill, d'accord ? Principe d'économie politique 1848, un chapitre sur l'état stationnaire où John Stuart Mill vous dit, au fait de la première révolution industrielle, il faut arrêter la machine économique,
d'accord ?
Il faut arrêter la croissance qui en est à ses balbutiements, d'accord ? Les taux de croissance du 19e siècle sont minuscules par rapport à ceux du 20e siècle. Il faut arrêter ça parce qu'on est en train d'effrayer la biosphère. Et il faut recentrer l'économie sur deux choses, la préservation de la biosphère et la justice sociale.
Il en parle vraiment, il dit la nature,
voilà,
il dit pas les mots d'écosystème et compagnie, mais on comprend que c'est ça qui est.
Exactement. Et à l'époque, vous avez plein de gens qui comprennent en fait ce qui est en train de se passer, et donc John Maynard Keynes pouvait avoir cette intuition-là. Il ne l'a pas, il invente ça, et donc vous avez cet enchaînement croissance politique macroéconomique plein emploi.
Et plein emploi, alors revenir sur ce mot, qui est quand même un mot mantra de tous les gouvernements depuis le temps, c'est un truc chouette le plein emploi. C'est aussi tout le monde a envie du plein emploi, mais vous vous dites non, le plein emploi c'est pas.
Alors ce qu'on croit, c'est un truc chouette, ça dépend. Ça dépend au prix de quoi l'emploi. Ça dépend ce qu'on appelle le plein emploi. Par exemple, quand le gouvernement actuel dit plein emploi, ce qu'il veut dire c'est le plein travail. C'est la vie passée à travailler. Pas du tout la réduction du chômage et le fait que vous avez des souffrances sociales qui sont atténuées par le fait des structures socialement. C'est qu'en fait, il va augmenter les heures travaillées. Si vous voulez comprendre ce que une fois plus la matrice du gouvernement, c'est le rapport Attali. C'est le rapport de la commission Attali de 2008.
C'est pourquoi les Français... le rapport Attali est aujourd'hui.
Alors, en fait, le rapport Attali en 2008 dit que la France a décroché par rapport aux autres pays développés à cause de la réduction du temps de travail. D'accord. On a fait une erreur fatale en France, qui est de penser qu'on pouvait, avec une très forte productivité du travail, libérer du temps libre, enfin libérer du temps, pardon, c'est l'histoire humaine hein, au XXe siècle. On travaille beaucoup moins pour des niveaux de vie qui sont beaucoup plus importants. Donc, allez, et en plus, évidemment, la réduction du travail, c'est la politique écologique par excellence, hein, puisqu'on réduit l'empreinte, donc c'est la politique la plus intelligente qui soit. En fait, c'est une politique de sobriété. Quand le gouvernement cherche aujourd'hui un plan de sobriété, la réduction du temps de travail, c'est précisément ça. Et en fait, en 2008, le rapport Attali, dont Emmanuel Macron est le grand rédacteur, le rapporteur principal,
voilà,
eh bien, c'est, il faut remettre les Français au travail. Il faut remettre les Français au travail, il faut réintensifier le travail, le rendre pénible, d'ailleurs, fondamentalement.
Il faut le rendre pénible, c'est écrit.
Voilà, ça vient de le travail sur c'est fondamentalement, on était dans les délices de Capoue, c'était l'abondance, etc. Maintenant, il faut se remettre au travail. Donc, il faut décaler l'âge de la retraite, faire en sorte que les Français travaillent plus, etc. Et à ce moment-là, et vous avez cet objectif de il n'y a rien d'autre qu'un objectif de 1944. D'accord ? Pour vous dire à quel point on est en retard. Ce que j'essaye de vous dire, de façon un peu abondante, mais pas la fin d'amour, enfin, mais avant, c'est qu'on est dans un système que moi j'appelle l'économie du XXe siècle. Je n'aime pas cette idée qu'il y a des économistes orthodoxes et des économistes hétérodoxes. Ça, c'est trop facile parce que ça laisse penser qu'il y a une bonne voie, une voie droite de l'économie. Et je suis désolé, mais Aristote, c'est un économiste. D'accord ? Il n'y a aucune raison de laisser l'économie aux économistes orthodoxes de ces 30 dernières années. Considérez que l'économie dominante de ces 30 dernières années, c'est l'économie. L'économie est beaucoup plus riche que ça. D'accord ? Et donc, l'économie du XXe siècle, c'est cette matrice-là. Le problème, c'est qu'on a changé de siècle. D'accord ? Donc, quand on dit on est dans l'économie encore, dans l'économie du XXe siècle, il faut passer à l'économie du XXe siècle, il faut justifier les choses en expliquant pourquoi on a changé de siècle, quand on a changé de siècle, et qu'est-ce que l'économie du XXe siècle fait au XXIe siècle. D'abord, moi j'ai une thèse assez forte qui est que le XXIe siècle a commencé le 7 avril 2020.
Il n'y a pas si longtemps.
Donc il n'y a pas si longtemps.
Qu'est-ce qui s'est donc passé le 7 avril 2020
quand vous regardez les siècles ne commencent pas à date fixe. Encore l'histoire, c'est pas. Le XXe siècle commence pas en 1900. En 1900, il se passe rien. En 1800, il se passe rien. D'accord ? Donc vous avez des théories sur les siècles. Eric Hobsbawm dit il y a un long XIXe siècle et il y a un court XXe siècle. Donc évidemment, le XIXe siècle commence en 1789 et se termine en 1914. Donc là, ça fait sens. Parce qu'on se dit ah oui, le XIXe siècle commence en 1789, oui, parce que 1789 est une date significative pour ce qui va suivre. Qui est le printemps des peuples, etc. 1914 est une date significative sur toutes sortes d'enchaînements. Et donc, moi je me demandais, quand est-ce que c'est terminé le XXe siècle? Et quand est-ce qu'a commencé le XXIe siècle? Vous avez des théories selon lesquelles c'est la fin de la guerre froide.
Donc on est en 1989.
Alors voilà, 1989.
La chute du mur de Berlin.
Bon, par exemple, 1989, la chute du mur de Berlin, ce serait l'idée qu'on est rentré, et c'était la thèse à l'époque, dans une ère de démocratie libérale. On voit à quel point cette idée était fausse aujourd'hui. On voit à quel point la vraie date de 1989, ou en tout cas la date jumelle de 1989, c'est pas la chute du mur de Berlin, c'est Tiananmen. Puisque Tiananmen, c'est précisément la résistance de la Chine au modèle de la démocratie libérale, et on voit à quel point aujourd'hui, c'est la démocratie qui est en danger. Et que 1989 était une illusion complète. Je dis la fin de l'histoire. La fin de l'histoire conçue comme la convergence vers les démocraties libérales. Au contraire, la démocratie est attaquée de toutes parts, et il faut comprendre cette crise de la démocratie, qui à mon sens commence à la fin des années 2000 en Europe de l'Est, et notamment en Hongrie, c'est là que ça commence la crise de la démocratie, ensuite ça s'étend absolument partout, et évidemment aux États-Unis, dans tous les berceaux de la démocratie, les États-Unis, la Grèce, le Royaume-Uni, la plus grande démocratie du monde qu'est l'Inde, etc. Donc 1989, c'était une illusion. Est-ce que le 11 septembre 2001 est le début du XXIe siècle? L'idée du terrorisme, le choc des civilisations, le terrorisme islamique, le choc des civilisations, Clinton, etc. Non, je veux dire, le truc fondamental du XXIe siècle, c'est la crise écologique. C'est clair pour tout le monde.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous faites le lien entre crise pandémique, parce que ça nous parle voilà. Un peu de la pandémie, et crise écologique. Enfin, ça, là, c'est un fruit de la crise écologique, finalement, la pandémie.
Alors, donc la question, c'est il nous faut une date pertinente qui démarre le siècle des chocs écologiques. Ça va être ça au moins toute la première moitié du XXIe siècle, au moins jusqu'en 2050. Okay. Ce qu'on vit là, qui est, donc une fois de plus, hein, enfin, à part Emmanuel Macron qui donc dormait, mais pour le reste, les gens qui sont réveillés, qui savent par exemple que les gens, par exemple, de Santé publique France, qui est a priori quelque chose auquel le gouvernement a accès, qui savent qu'il y a des dizaines de milliers de morts en France des canicules depuis 5 ans, qui savent qu'en 2019, en 2020, il y a eu 15% de surmortalité des canicules. Santé publique France dit en juillet, on est sur 20% de surmortalité. On aura le bilan des canicules de cet été, ce sera plusieurs milliers de morts. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord ? Donc on va avoir des chocs écologiques qui vont se succéder les uns aux autres. Quand est-ce que commence ce siècle des chocs écologiques ? Moi, je propose le 7 avril 2020. Pourquoi ? Parce que le 7 avril 2020, vous avez 4 milliards de personnes qui sont confinées dans 100 pays du monde. Et ils sont confinés pourquoi ? Parce que vous avez un virus qui est inconnu, mortel, qui est en train de tuer des dizaines de milliers de gens, bientôt des centaines de milliers de gens. Je me permets de vous signaler qu'à l'heure où on parle, le Covid a tué à peu près 20 millions de personnes. 20 millions. Ce n'est pas du tout 6 millions, le bilan du Covid. Il y a des études dans le Lancet qui sont sorties là, au début de l'année, qui montrent que le Covid, la pandémie de Covid-19, a tué, quand on fait vraiment le bilan de la surmortalité, quelque chose comme 18 à 20 millions de personnes. Il y a 55 millions de personnes qui meurent chaque année sur la planète. D'accord ? En deux ans, 20 millions de personnes, ça fait donc 15% de surmortalité. C'est absolument considérable. Évidemment qu'on n'a pas suffisamment de recul, que, voilà, tu me disais, la rentrée de Thérèse, qui va y avoir un grand roman sur le Covid, évidemment, c'est bien trop tôt. On n'a pas encore pris la mesure de ce choc-là. Mais en fait, c'est ce qui nous a fait rentrer, je pense, dans ce choc des siècles, enfin, de ce siècle des chocs écologiques. Donc, le 21e siècle est là. Alors, je termine. Je poursuis cette longue digression.